Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h13, la suite des grands débats ce matin avec toujours Philippe Bilger et Arlette Chabot et puis notre invité ce matin, Franck Tapiro, publicitaire et PDG de l'agence Hémisphère Droit. Bon. Et en attendant, c'est Félix Mathieu.
Oui, juste Félix Mathieu dans un instant sur son factuel. Mais vous disiez, en fait, c'est un bon coup qu'il a réussi dans cette vidéo de rentrée, même si elle peut choquer certains, où il fait référence au geste barrière de McFly et Carlito, et puis ensuite à Samuel Paty, où il rend hommage. Vous dites, il a bien fait, Franck Tapiro, et c'est un succès sur les réseaux sociaux. Philippe Bilger n'est pas d'accord. Arlette Chabot.
Bonne opération, McFly et Carlito. D'ailleurs, c'était intéressant hier, Emmanuel Macron dans une école, il y a les gamins qui sont là et qui l'interrogent sur McFly et Carlito. Hein. Le message est bien passé. Ouais. Donc ça, c'est efficace. Alors, en revanche, moi, je ne suis pas fan du tout, évidemment, du mélange Samuel Paty, McFly et Carlito. Alors, je reprendrai, c'est une grosse maladresse quand même, évidemment, surtout que dans la majorité et même des proches d'Emmanuel Macron, on vous explique qu'on est dans une société où tout se vaut, on met tout sur au même niveau et ça va pas du tout, il faut faire très attention, donc le pari d'Emmanuel Macron, le jeu avec McFly et Carlito, c'était bien joué hier de les remettre dans le film le jour où ils souhaitent une bonne rentrée scolaire aux enfants, mais c'est pas le jour où il fallait évidemment citer Samuel Paty. Je pense que président de la République, le jour où l'on commémorera l'assassinat de Samuel Paty, le président de la République aura intérêt à aller rendre hommage à ce professeur qui est surtout qu'on sera en plus en plein procès des attentats de Paris, du Bataclan. Donc il va falloir qu'il fasse quelque chose et qu'il rende hommage à Samuel Paty pour effacer cette maladresse.
Je suis désolé, mais pour moi, l'hommage qu'il a rendu hier était peut-être un des plus importants depuis le drame de Samuel Paty. Je vais dire pourquoi. La cible numéro un de cet hommage, aujourd'hui en France, c'est qui ? Ça doit être les jeunes. Les jeunes qui sont à l'école. Les jeunes qui sont oppressés parfois sur des sujets où on ne peut pas parler de religion, on ne peut pas parler des caricatures, on ne peut rien dire du tout. Et Samuel Paty est le symbole finalement de cette lutte contre cette ignorance absolue, surtout cette peur qu'on met sur l'école et sur l'éducation de ne pas aborder certains sujets. Donc finalement, de dire que Samuel Paty est un symbole, et même si c'est un peu rapproché avec l'histoire de McFly et Carlito, c'était le moment où les 11 millions de personnes qui ont liké, qui ont vu, et les 650 000 qui ont liké, avaient le cerveau très ouvert et les oreilles très ouvertes. Au contraire, je pense qu'à ce moment-là, Samuel Paty reprend du sens, Samuel Paty devient encore plus un symbole pour eux, alors que s'il le fait sur d'autres temps, d'autres séquences, sur des médias traditionnels, on va dire, pour nous, autour de la table, ça n'a pas d'impact. Pourquoi ? Nous, on est déjà sensibilisés à la cause. Ce sont les jeunes qu'il faut sensibiliser aujourd'hui. Ouais. Et donc, il a pris peut-être quelque chose qui vous paraît un peu dur, un peu maladroit, mais qui, au contraire, est totalement impactant et fort émotionnellement pour les jeunes.
Mais c'est vous qui avez dit maladresse, pardon.
Non, pour vous, je parle pour le public, pas pour les jeunes. Pour les jeunes, c'est pas du tout maladresse.
Pour les jeunes, mais parce qu'ils peut-être qu'ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas le symbole qu'est Samuel Paty.
Mais je pense que
moi, je suis pas sûr.
Mais c'est tout à fait possible. Mais d'abord, avec une double conséquence possible, c'est qu'il s'adresse bien sûr à une jeunesse comme si c'était une page d'un livre à ouvrir, de manière un petit peu cynique. Et deuxième élément, ces jeunes ne vont pas aller forcément voter. Et troisième élément, il y a énormément de citoyens qui vont être choqués par cette méthode d'infantilisation. Parce que je ne crois pas une seconde que le mélange de Samuel Paty avec Carlito va davantage impressionner les jeunes que s'il l'avait fait de manière décente.
On verra, moi je pense exactement l'inverse, mais c'est pas parce que je suis opposé à vous. Je pense qu'en termes de méthode de communication, il invente quelque chose de totalement neuf. Il connaît bien la cible, il sait bien quels sont leurs modes de consommation, ils savent qu'eux passent d'une émotion à une autre en une milliardième de seconde. Regardez, moi je vois mes filles.
Société du zapping.
Mais bien entendu, elles tweetent avec des larmes sur un truc très dur sur l'Afghanistan. Dans l'instant d'après, elles éclatent de rire sur TikTok, elles reviennent sur Instagram. Ouais. C'est ça la vie d'aujourd'hui, c'est ça ce public de jeunes. Qu'on l'aime ou pas, c'est comme ça. Ouais. Donc encore une fois, moi je préfère un président qui se mettent à la place des jeunes pour voir un peu comment leur faire passer des messages, plutôt qu'ils restent, on va dire, nos habitudes très classiques. Non, et vous avez sûrement raison dans ce que vous dites. Moi, j'étais d'accord avec vous il y a quelques années, mais maintenant que je me rapproche un peu plus de savoir comment fonctionne un petit peu cette nouvelle mentalité de la jeunesse, je pense que si on n'y arrive pas, on va se plaindre, nous tous autour de la table, l'an prochain quand on verra l'abstention et l'abstention des jeunes. Moi, je vous donne rendez-vous en mai prochain. Et on verra, moi je vous parie, que les jeunes voteront beaucoup plus, ça veut pas dire en masse, que les autres années. Ouais. Et on fait le pari ensemble, tous les cinq.
Bon, ils ne sont pas du tout, ils sont pas du tout d'accord avec vous sur Twitter.
Sur les réseaux sociaux, là.
C'est qui nous dit où vous voyez un hommage rendu, point d'interrogation, ce n'est qu'une évocation de circonstances, un alibi, un prétexte, un marchepied pour gagner quelques centimètres de fausse grandeur. Qui est dupe?
Non, je pense que... Franck, là où je ne vous rejoins pas, moi, mais le problème que vous posez, il existe profondément sur toutes les présidences de la République, je dirais, depuis, en gros, Mitterrand. Pompidou.
Mitterrand, Mitterrand.
Même,
génération Mitterrand, c'est le seul qui avait commencé
à... Lorsqu'on a arrêté la dignité présidentielle, de mon point de vue. Mais je suis choqué par le fait que vous considériez comme un progrès le fait qu'un président accompagne la dégradation démocratique.
Excusez-moi, c'est autre chose.
Non, mais c'est exactement ça.
On peut avoir une autre discussion sur le jugement de la société aujourd'hui. Je pense que je serais d'accord avec vous à
95%. Non, mais vous dites que c'est bien d'être comme ça.
Je ne juge pas.
Vous dites que c'est bien de sa part.
Non, vous allez voir. Moi, j'essaie d'être là en tant qu'expert de la communication et expert d'un autre mode de communication. Moi,
je faisais
la publicité, on l'a bien connu à l'époque. On passait dans la télé, tout le monde nous voyait, etc. Maintenant, c'est pas ça. On fait du one-to-one ou du one-to-many, comme on dit. On va sur les réseaux sociaux où les jeunes ont la main. Et si on n'a pas les codes, si on n'a pas le tempo, si on n'a pas à un moment la façon de faire, ils ne vous écoutent pas. Et après, on se plaindra encore que les jeunes ne vous écoutent pas. Donc, oui, moi, je vous le dis, en tant que citoyen et en tant qu'engagé citoyen, tous les moyens sont bons aujourd'hui pour un président de la République pour ramener les jeunes à la politique.
Mais ça, c'est juste, citoyen. C'est évident, ça. Franck, mais ça, c'est nécessaire. Il y a eu François Mitterrand, il y a eu un grand vide et on revient effectivement.
Voilà. Avec, donc, cette méthode hier qui vous paraît.
Parce que c'est les deux qui nous choquent.
Ça vous choque, vous? Je suis désolé, je pense que les jeunes, les 11 millions de jeunes qui ont vu cette vidéo hier ne sont pas choqués. Ça peut être que vous avez raison, vous avez tort. Je dis juste, voilà, vous avez raison de penser ce que vous pensez. Eux pensent exactement l'inverse, ça veut pas dire que vous avez tort.
Et vous n'allez pas les ramener à la politique, Franck. C'est là où vous ne croyez pas une seconde que ce Twitter, avec ce mélange indécent, va ramener les jeunes dans quelques mois à la politique.
On fait le pari.
On fait le pari.
Franck Tapiro, cela dit, même si ça a été vu par 10 millions ou 11 millions de personnes, ce n'est pas pour autant que les personnes qui ont vu n'ont peut-être pas été choquées elles-mêmes aussi. Elles trouvent ça finalement un petit peu trop indécent. Quoi.
Mais c'est une très bonne nouvelle. Je me plains depuis 30 ans que je fais ce métier. La communication politique, c'est de l'émotion.
Voilà.
On en a marre de 95% des paroles publiques qui ne créent rien. Ouais. Ni indifférence, ni provocation, ni rien. Ouais. Il faut créer de l'émotion parce que l'émotion, c'est le début de l'action. Ouais. S'il n'y a pas d'émotion en politique, il n'y a pas d'action politique. On le sait très bien, le passeport pour l'action politique, c'est l'émotion, c'est la communication. Alors, donc oui, que ça choque d'un côté, que ça crée de l'adhésion de l'autre, c'est de la politique. Tout le reste, ce n'est pas de la politique.
Alors, ça veut dire quand même, Franck, pardon, qu'il va être obligé de réparer, parce qu'il y a un électorat qui soutient Emmanuel Macron et qui a été choqué. Donc on touche les jeunes, c'est très bien, mais il va être obligé de réparer les semaines qui viennent. On est d'accord là-dessus.
On est complètement d'accord. Voilà. Là, je jugeais uniquement ce qui s'est passé hier, à l'aune de cet objectif de ramener les jeunes à la politique, à la citoyenneté finalement, parce que c'est notre débat fondamental.
Alors ça, c'est beaucoup évidemment aussi de la forme, mais il y avait le fond, et c'est marrant parce que cette forme, à travers ce qu'il a dit hier et cette prise de parole, a éclipsé en partie, en tout cas sur les réseaux sociaux et même dans les débats, le fond. Alors on va le voir justement sur le fond, et vous allez nous dire aussi si c'est de la com ou pas, avec le plan qui a été annoncé d'un milliard sur la table. Factuel, comme chaque matin, avec Félix Mathieu. Félix, Emmanuel Macron, donc à Marseille, ni grand plan, ni chèque en blanc, mais c'est de l'argent sur la table, a priori. Hein.
Oui, 1,5 milliard d'euros débloqués par l'État pour aider à la modernisation des transports, automatisation du métro, désenclavement des quartiers nord, 4 nouvelles lignes de tram, 5 nouvelles lignes de bus, réhabiliter aussi 10 000 logements en 15 ans. Côté sécurité, l'arrivée de nouveaux effectifs promis devrait s'accélérer dans la police, 200 nouveaux policiers dès l'an prochain, 500 caméras de vidéosurveillance et puis aussi des nouveaux véhicules de police. Au programme aussi, rénovation des hôpitaux, installation à la prochaine rentrée dans un an de 10 micro-collèges et 10 micro-lycées pour prendre en charge des élèves décrocheurs en petits groupes. Par contre, sur le dossier réfection des écoles, le président n'a pas encore chiffré concrètement l'apport de l'État. On rappelle que c'est une compétence municipale.
Bon, et ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement entend s'attaquer justement aux difficultés de Marseille. Si on remonte simplement à 15 ans, Félix, remettez-nous un petit peu tout ça en perspective.
Eh bien, 2008, une centaine de fonctionnaires pour lutter contre la délinquance, promis par Nicolas Sarkozy. 2013, Jean-Marc Ayrault débloque 3 milliards d'euros d'aide pour les transports et la rénovation urbaine. Il était notamment question d'une gare souterraine sous la Saint-Charles, dossier toujours en attente. 2015, Manuel Valls, 1 milliard pour les associations, la culture et le sport. Ou encore 2016, François Hollande met sur la table 65 millions d'euros pour les transports et la culture.
Oui, voilà. Alors tout ça, ça passe un peu au second plan. Et puis, est-ce que dans ces annonces aussi, Franck Tapiro, Arlette Chabot et Philippe Bilger, c'est de la com, d'aller dire, bon, un grand plan d'un milliard, etc., sur quelques années?
Moi, ce qui m'a plu déjà hier, c'est qu'il a rappelé aux Français que notre hymne national s'appelait la Marseillaise.
Ouais.
Je trouve qu'il a remis le point national sur Marseille, qui est cette grande ville magnifique, pareil qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais on peut pas rester différent avec Marseille, mais qui a besoin, bien entendu, à tous les niveaux, il l'a dit hier, l'éducation, la santé, la police, l'habitat, etc. Qui a besoin d'un plan Marshall, finalement. Alors, il s'est mis, pour moi, dans cette idée de, non pas de sauver Marseille, c'est pire que ça, c'est de faire un plan gagnant-gagnant, il l'a bien dit, avec les Marseillais surtout, pour essayer de faire évoluer cette ville.
On aura un temps et faux du personnel municipal dans un instant.
Et de dire, je ne suis plus dans les promesses, je suis dans l'engagement, mais il attend un engagement des élus, c'est normal.
Ouais.
Donc à un moment, on va mettre de l'argent sur la table, mais c'est pas l'aumône qu'il est venu faire. Il est venu dire, on va s'engager, mais l'engagement, il est dans les deux sens. Je trouve ça extrêmement, quand je vois, positif par rapport à une image présidentielle, une image politique, de dire, on vient pas pour faire une campagne et je distribue des billets, et puis vous allez voir ce qui va se passer, c'est de dire, je suis là, je reste 3 jours. Hier, il a dîné comme avec Mario Draghi, comme c'est un signe. Ouais. Aujourd'hui, il fait des visites par rapport à la biodiversité. Il voit des jeunes. Il s'engage, il est sur le terrain, un peu dans l'esprit, c'est vrai, de 2016, mais sauf que là, il n'est pas en campagne. Il est président en action, président en activité. Donc certains, mais là, attendez, ça veut dire qu'un an avant une élection, un président en activité doit s'arrêter de tout faire. Je suis désolé, non.
Arlette et ensuite Philippe Bilger.
Alors on n'est pas, mais ça ressemble en fait. On a bien compris hier. Hein. Alors le plan, c'est vrai que c'est petit. Hein. Pour l'instant, c'est la moitié de ce qu'avait promis Jean-Marc Ayrault.
C'est vrai.
C'est jamais arrivé.
C'est pour ça. Ça vaut le coup de rappeler parfois les choses.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement la mise en cause des élus locaux. Parce que si Marseille est dans cet état, c'est parce que les élus de droite et de gauche ont partagé les gâteaux. Il y a une responsabilité des politiques qui ont foutu la ville totalement à plat. Et c'est pour la raison pour laquelle le maire, après un audit, a dit au président de la République, au secours, il faut que l'État nous aide, sinon on ne s'en sortira jamais.
Voilà.
Ça, c'est vrai. Alors, évidemment, hier, quand même, on a retrouvé le Macron, pardon de le dire, de 2016 quand même, un peu.
Hein,
oui. On a retrouvé le Macron, la réforme, la volonté de sortir des quartiers, fin de l'assignation à résidence pour les jeunes, la chance de progresser. On retrouve quand même les thèmes
avec
de
2016. Avec une humilité qui...
Ah ben ça, c'est nouveau, l'humilité.
Voilà, une humilité, si pragmatisme, humilité concret. Et ça, je peux vous dire que là, il a cassé un peu le moule dans lequel on l'avait un peu mis quand même.
Il s'était mis tout seul.
Mais Franck, la grande différence entre nous, c'est que avec beaucoup de talent, vous créditez Emmanuel Macron d'une sincérité, d'une authenticité. Moi, je constate qu'il vient à Marseille 8 mois avant la fin du mandat. Que s'il ignorait ce qui se passait à Marseille, ça veut dire que ça fonctionne mal. Et s'il le savait, il aurait dû venir plus tôt. Et
il y avait des choses à faire.
Non.
Covid, les gilets jaunes, les retraites.
D'accord. Mais vous croyez qu'il n'aurait pas eu autre chose à faire, même par rapport à Marseille? Et troisième élément.
Non, mais ça n'a pas fonctionné.
Je pense que le plan qui vient d'être rappelé, c'est du vent. Parce que, à la longue, nous serons tous morts. Le plan en France, c'est une manière de se décharger sur le futur des incapacités d'affronter le présent.
Bon.
Et je trouve que ça n'aura rigoureusement aucune incidence sur la délinquance et la criminalité.
On verra, encore une fois, on verra bien. Moi, je suis plutôt un optimiste de nature. Et je me dis déjà, quand les politiques s'engagent, c'est formidable. Quand ils s'engagent et qu'ils communiquent de façon concrète, humble, sur le terrain, qui reste 3 jours, qui sont pas uniquement pour signer des chèques, mais qui appellent à une interaction, ça veut dire l'engagement commun, et Arlette l'a très bien dit tout à l'heure, c'est parce qu'il vient après des manquements et des erreurs monumentales depuis des années, quel que soit d'ailleurs le parti au pouvoir, le parti en place. Donc là, c'est de dire fin de la récré, et c'est ce que j'ai entendu. C'est drôle, parce à la rentrée scolaire, de dire fin de la récré. Fin de la récré à Marseille, on s'est tous plantés. Moi y compris, je reviens, et maintenant on va s'engager petit à petit, mais je vais venir et on va faire de la gestion de projet. projet. Je reviens en février, je reviens un peu. Donc, quelque part, moi, je trouve ça malin parce que c'est une vraie méthode politique pour faire en sorte que ce ne soit pas des promesses, mais que chacun s'engage pour que vraiment ça change. Ah ben. Donc, ça nous change de la politique qu'on avait l'habitude d'entendre avec des vœux pieux.
On va voir dans
j'aimerais
un instant
tellement
comment
que vous ayez raison.
Mais ouais, moi aussi, j'aimerais avoir raison.
On va voir dans un instant comment c'est perçu, justement, et cette fin de la récré ou pas, avec le personnel municipal de Marseille aussi qui a été un petit peu pointé du doigt dans cette affaire. On sera avec un représentant Force Ouvrière, j'aurais bien l'entendre, Patrick Ruet, dans un instant sur Sud Radio. Puis vous nous parlerez aussi de votre engagement citoyen. Absolument. Parce qu'il y en a un aussi, Franck Tapiro. Allez, dans une minute, et puis vous continuez de réagir, 0826 300 300.
Bah, dites-nous si vous pensez que ce personnel ne travaille pas assez ou il travaille suffisamment. 0826 300 300, vous attend au standard.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Le débat, les grands débats, c'est houleux hein, ce matin, 9h31 avec nos invités, ou en tout cas nos éditorialistes, avec Arlette Chabot et Philippe Bilger et Franck Tapiro qui est toujours là ce matin. Je rappelle ce livre, Franck Tapiro, pourquoi la vache qui pleure, enfin qui ne pleure jamais, oui. Aux éditions Albin Michel. Je trouve que le titre est assez intéressant.
Et vous allez nous parler dans un instant de votre engagement des mouvements citoyens. Je rappelle aussi que à propos d'engagement d'ailleurs, la France est à vos côtés chaque jour, c'est à 10h moins le quart, ce sera dans un quart d'heure et on parlera des initiatives, des gens qui se battent hein, pour faire avancer les choses. Et là, en l'occurrence, on sera aux côtés des gens qui ont des salles de sport, parce que c'est vrai que ça a été depuis un an et demi, le Covid, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors, il y a autre chose qui est un peu compliquée, notamment avec la visite d'Emmanuel Macron, c'est que parfois, il provoque, c'est ce qu'on a dit en fait tout à l'heure, et là, il a provoqué, alors je ne sais pas quelles sont les réactions, on va voir, mais à propos des personnels municipaux, à Marseille, il a dit, l'absentéisme, les grèves perlées, c'est un sujet. Patrick Ruet, vous êtes avec nous, représentant et faux du personnel municipal de Marseille. Bonjour Patrick Ruet.
Bonjour.
Bonjour. Comment vous avez pris cette déclaration du chef de l'État hier, quand vous l'avez entendue?
Bon, déjà, manifestement, c'est une déclaration qui a été soufflée dans l'oreille, puisqu'apparemment, je pense qu'il ne sait pas trop de quoi il parle. Et puis, avant de vouloir venir donner des leçons aux Marseillais, qu'il s'occupe, lui, de ses propres problèmes. Je dis, par exemple, que le 5 octobre, il va y avoir une grève nationale en ce qui concerne le retrait des dossiers des retraites et en ce qui concerne l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Donc, il nous montre, lui, comment il empêche la grève nationale. Après, on verra à Marseille comment on fait.
Oui, mais c'est un sujet ou pas, justement, les grèves perlées, le temps de travail chez le personnel municipal à Marseille? On dit que certains travaillent moins de 32 heures. C'est vrai ou pas, Patrick Ruet?
C'est totalement faux.
Alors pourquoi c'est répercuté en permanence, alors?
Écoutez, je pense que vous y êtes pour beaucoup, déjà.
Pas moi, mais les journalistes, oui.
Non, je parle en général.
Oui, d'accord. Voilà,
j'ai beaucoup d'amis dans les journalistes, même si peut-être à l'Estac, j'en ai peut-être un peu moins. mais non, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a une preuve flagrante, c'est que ça fait 2 ans où on a instauré les badgeuses à la ville de Marseille. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu depuis qu'on a instauré les badgeuses? Non pas que les agents ne font pas leurs heures, mais qu'on a du mal à rembourser toutes les heures que les agents font en plus. Et on l'a vu notamment pendant le confinement, parce qu'on l'a déjà oublié, où le personnel municipal a été exemplaire. Donc, à un moment donné, alors c'est facile, oui, on dit toujours Marseille, machine, c'est agents municipaux, machine également.
Oui, c'est ça. Et est-ce que avec l'ensemble de vos collègues, vous avez réagi fortement hier soir quand vous l'avez entendu ou pas? Vous vous attendiez à une telle sortie d'ailleurs du chef de l'État?
Non, pas du tout. Mais bon, peut-être qu'il voulait avoir des réactions. Donc,
parce que Emmanuel Macron, il a dit, bon, attendez, je vous donne de l'argent, etc. Il va y avoir un plan, mais derrière, je vais revenir voir, vérifier si ça marche. Et donc, il a dit à Benoît Payan, grosso modo, il me faut mettre de l'ordre. Donc, comment ça va se passer, là, les discussions, les négociations avec le maire Patrick Ruet?
Alors, déjà, vous savez, je suis pas très bon en anglais, mais pour ce qui est de l'argent, on va dire « one thing see ». Bon, et en ce qui concerne Macron, qui doit être meilleur que moi en anglais, je crois qu'il a fait « I have a dream », en ce qui le concerne.
Ouais.
Donc, on va un peu... On est quand même des gens sérieux, même si on est souvent à la galéjade.
Ouais.
Aujourd'hui, le seul moyen qu'il y a d'éviter les grèves, et bon, sachez quand même que je parle au nom du syndicat pour tout vous dire. Je ne peux pas parler au nom de toutes les autres organisations syndicales. Mais le seul moyen d'éviter les grèves, c'est d'éviter les conflits. Et donc, actuellement, la majorité des conflits, notamment sur les écoles et les crèches, c'est quoi? C'est le manque d'effectifs et c'est la pénibilité en ce qui concerne le travail.
Ouais.
Benoît Payan a fait un geste envers nous envers les employés, quand ce qui concerne la pénibilité, aussitôt la préfecture le rétorque. Donc en même temps, on ne peut pas ne pas vouloir de grève et faire en sorte qu'elle y soit.
Bon, et dites-moi, cette histoire de nettoyage là, dans les quartiers en fait, nord, avant la visite en fait, du chef de l'État, ça a bien existé, c'est bien réel. Pourquoi ? C'est parce que ce n'est pas nettoyé en fait, auparavant ?
Non, mais bon, là, c'est de la mascarade, c'est de la provocation par rapport aux habitants, que ce soit d'ailleurs au niveau sécurité, au niveau nettoyage et tout ce qui s'en suit. D'ailleurs, moi, hier, j'étais à l'école au Bouge, où le président est rentré dedans, avec toutes les personnalités, avec une nuée de journalistes. Les journalistes, ça aurait été bien qu'ils restent un peu plus en retrait avec la population. Et on aurait vu que la population, déjà, il n'y avait pas grand monde, ce qui va étonner moi-même, et que la population était quand même globalement très hostile à Tabou. Ouais. Donc, ça, c'est pas ce qui ressort à travers ce qu'on entend.
Oui, non, mais c'est vrai. Et alors, ça, il faut le dire, Patrick Ruet, que oui, il a été hué quand même, le chef de l'État, quand il est arrivé à Marseille. Il a quand même eu des sifflets. Hein. C'est-à-dire qu'il divise beaucoup. Franck Tapiro, reste avec nous, Patrick Ruet. C'est-à-dire que ces chefs de l'État, ils clivent quand même énormément, quoi. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il veut pour la prochaine présidentielle, quoi.
Il crée de l'émotion, il réveille un peu, je trouve, le sentiment républicain. Voilà, il remet un peu les gens dans l'action. Vous savez, ça fait quand même un an et demi qu'on ne parle que de Covid du matin au soir. Ouais. On oublie toute la réalité du terrain en France. Et donc je pense que voilà, il est en train de créer de l'émotion et c'est une très bonne chose. Que les gens se réveillent, que les gens s'intéressent, que les gens soient pour ou contre, mais qu'ils s'intéressent à la politique et qu'on ne se retrouve pas avec le plus grand parti de France qui est le parti des abstentionnistes. Donc moi je trouve ça très très bien qu'on s'engueule sur la politique. Formidable qu'on soit pour ou contre Macron. Formidable qu'on trouve ça ou catastrophique ou génial. Ou... Pourquoi ? Parce qu'au moins on a une opinion, au moins on a une énergie, on a une envie, on a quelque chose, on a une émotion par rapport à la politique. Et à 8 mois de la présidentielle, je trouve que ce que fait Macron aussi, c'est un acte républicain de dire que vous m'aimez pas, c'est pas le problème, c'est réintéressez-vous à la politique, il faut que tout le monde vote en 2022. Donc encore une fois, moi je trouve ça formidable de se dire, c'est pas tant voter pour moi, c'est réintéressez-vous à la politique. Donc c'est pas une question de cliver, c'est une question de j'agis, je dis les choses, je dis ce que je pense, je suis pas là pour faire comme tout le monde, essayer de balancer des billets à tout le monde, faire de l'électoralisme, et je pense qu'en écoutant ce cher syndiqué, on voit bien
Patrick
qu'il ne fait
pas... Patrick,
on voit bien qu'il ne fait pas l'électoralisme, sinon il a dit, ouais, c'est ça, il a essayé de brosser tout le monde dans le sens du poil. Alors, quand on brosse tout le monde dans le sens du poil, on est critiqué, et quand on est clivant, on est critiqué. Moi, je préfère sincèrement quelqu'un, pas de clivant, mais qui dit ce qu'il pense, qui est sincère, qui va avec humilité, qui va avec des preuves, plutôt que quelqu'un qui essaie de faire des grands sourires à tout le monde. Ça ne marche jamais et ça ne marche plus aujourd'hui. Et
est-ce que ça vous plaît, en fait, ce que vient de dire aussi Franck Tapiro ? C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, il ne faut pas laisser indifférent, hein, Patrick Ruet. Patrick Ruet ?
Il est essoufflé parce que j'ai dit.
Oui, on est tout à fait pour le parler franc et direct. Oui. Je vous dis, ça a été dit, je crois, dans l'émission tout à l'heure, les Marseillais ont été échaudés, puisqu'on a eu quand même pas mal de promesses qui ont été faites.
C'est vrai.
Et personne, tout le monde plutôt s'est aperçu quand même que sa visite intervient quelques mois avant des élections présidentielles. Et d'ailleurs, la question que, naïvement, moi-même d'ailleurs, les gens se posent, et s'il n'est pas élu, toutes les promesses vont continuer.
Ça, j'adore.
Ah, mais c'est vrai.
Quelque part, vous y croyez quand même un tout petit peu aux engagements de l'État, si vous dites s'il n'est pas élu, mais... C'est, vous y croyez, quoi. Que se passera-t-il?
Qu'il a parlé de février 2022.
Bien sûr.
Et puis, il aime... Vous savez, on dit souvent... il avait même été critiqué à l'époque en disant « Oui, on a un président plus OM que PSG, vous vous rappelez, donc il est plus Marseille que Paris. » Là, est-ce que M. Ruet pourra pas dire quand même qu'il a ressenti un amour de Marseille de la part du président? J'ai dit oui, le président aime Marseille. Il aime la France, mais il aime Marseille. Je trouve ça formidable. Quand, hier, il y avait une sincérité et une humilité. Pourquoi? Parce qu'il aime profondément cette ville.
Moi, si j'étais maire d'autres villes, je dirais, je voudrais en fait aussi que le président vienne dans ma ville aussi pour la même chose.
Mais pourquoi, effectivement,
on a l'impression que Marseille, c'était en fait un autre pays.
Mais c'est normal. Marseille
mais pourquoi c'est normal?
Marseille a toujours été considéré en France comme même certaines personnes disent, oh, mais de toute façon, à Marseille, on n'est pas en France. Arrêtons l'hypocrisie. Marseille portait toujours le chapeau, depuis Borsalino d'ailleurs, où on a dit que Marseille c'était l'inter de la French Connection et la mafia, etc. Arrêtons. Il veut casser le coup à cette mauvaise image qu'a Marseille depuis des années, une image qui a été parfois juste, parfois totalement usurpée, en disant, tournons la page, écrivons le Marseille d'après. C'est ça qui est intéressant. Donc, on peut pas lui reprocher de vouloir écrire le Marseille d'après. Quand on est Marseillais, au contraire, c'est de dire, prenons toutes les forces de Marseille, essayons de taper sur les faiblesses, essayons de menacer ceux qui menacent les Marseillais et l'évolution de cette ville pour l'éducation, pour la formation, pour l'entrepreneuriat. Enfin, moi, j'ai entendu des choses positives. C'est pas du pipeau.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais moi, si j'étais maire, en fait, de Clermont-Ferrand, je demanderais 1 milliard pour l'agglomération. Si j'étais maire à Bordeaux, je demanderais, en fait, 1 milliard. Si j'étais à Nantes, je demanderais 1 milliard. Si j'étais à Lille, où il y a exactement les mêmes problèmes, je demanderais 1 milliard.
Il y a une urgence à Marseille.
Mais vous commencez.
Deuxième ville de France. Il y a une urgence. Attendez. Deuxième ville de France qui est totalement en dessous du niveau, avec des problématiques incroyables qui se sont accumulées, on l'a tous dit tout à l'heure. À un moment, il faut que ça s'arrête. Fin de la foire, fin de la récré.
Comme dit formidable. Patrick Rué, il y a des promesses et il faudrait qu'elles soient tenues, Patrick Rué. C'est ce que Patrick.
Oui, ça, évidemment, mais je m'aperçois également que tout le monde veut changer Marseille, puisque Marseille est une ville, je dirais, une ville modèle dans ce qu'il ne faut pas faire, d'après ce qu'on voit, mais en même temps, tout le monde veut venir à Marseille. Donc, ne nous la changez pas trop, notre ville. Nous, on l'aime comme ça. Et donc, on veut que ce soit les Marseillais qui améliorent leur ville, bien entendu. Si on nous donne un peu des possettes, même si ça n'existe plus, on les prendra et le côté...
Mais on vous a donné déjà de l'argent, il y a déjà eu des promesses, quoi, aussi, Patrick Rué. Alors, où s'est passé cet argent, alors?
J'ai entendu les promesses, j'ai pas vu l'argent. Bon, ceci dit, je suis pas gestionnaire de...
Mais à qui la faute, Patrick Rué? Où est passé l'argent?
Est-ce 3 milliards avec Jean Marquero, Manuel Valls, 1 milliard aussi. Donc,
est-ce que l'argent n'a pas été donné par l'État ou est-ce que les élus locaux étaient incapables mettre en place des projets et d'utiliser l'argent?
Alors, je suis incapable de répondre à cette réponse. Si l'argent il est arrivé. Ouais. S'il est arrivé, s'il a bien été utilisé. Toujours est-il que, quel que soit le niveau, c'est le politique qui est responsable à un moment donné, ou de ne pas avoir donné l'argent, ou de mal l'avoir employé.
Voilà pourquoi c'est le président qui se déplace, et pas seulement un ministre de Silo. Il y va avec une délégation, parce qu'il se dit, c'est une importance nationale. On parle de Marseille, je disais, la Marseillaise est notre hymne nationale. Ça remet, je trouve. Moi, je serais Marseillais aujourd'hui, je serais fier. Parce que on parlait de l'attraction de Marseille. Je suis désolé, moi, il y a 10 ans, 15 ans, tous mes potes de Paris rêvaient de Marseille, vivaient à Marseille ou dans ses environs. Depuis 3 ans, et vous le savez très bien, monsieur Rué, ça s'est arrêté net. Il y a une défiance terrible.
Merci en tout cas, Patrick Rué. On ira vérifier à la badgeuse, donc on verra sur le temps de travail. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Philippe Bilger, Arlette Chabot et Franck Tapiro, qui reviendra dans quelques jours pour nous parler de son mouvement citoyen. Lancez ça, c'est le
19 septembre, on va faire un rassemblement qui va être plutôt un festival citoyen.
D'accord.
Bon, la citoyenneté, c'est aujourd'hui à la base de tout et on l'a un peu oublié.
On sera à vos côtés comme la France est à vos côtés et Sud Radio est à vos côtés. Dans un instant, Cécile.
Oui, on reparlera des salles de sport qui souffrent énormément. Et ben on va essayer de voir si on peut trouver des solutions ensemble avec nos deux invités. En attendant, Patrick, on va offrir un petit cadeau parce que là, il faut pas oublier.
C'est parti.
On a lancé un jeu, donc il faut qu'on donne le cadeau. Je devrais bien garder pour moi, mais visiblement c'est pas possible. Et Sylvie de Carcassonne est avec nous. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bonjour Sylvie.
Sylvie, est-ce qu'on peut le garder ou on est obligé de vous le donner?
Non.
En tout cas, vous avez gagné un très joli séjour pour deux adultes et deux enfants, 3 jours et 2 nuits, et avec petit déjeuner pour Port Aventura Park et Ferrari Land. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser. C'est très sympa. C'est un endroit très très ludique. Vous y êtes déjà allé ou pas du tout?
C'est formidable. Alors en fait, pour la petite histoire, je suis un ex-agent de voyage en reconversion. J'ai passé 17 ans de ma vie à proposer des voyages, dont Port Aventura. J'organisais des séjours. Mais j'y suis jamais allée.
Et voilà, comme quoi.
On dit merci à qui?
Sud Radio.
Voilà.
Merci beaucoup, Sylvie.
C'est intéressant parce que vous êtes en reconversion. C'est vrai que dans le secteur du tourisme, il y a évidemment des difficultés.
Ça a été très compliqué aussi.
C'est dernièrement là que vous avez entamé votre reconversion ou pas?
Pas du tout, ça a été mûri. J'ai eu déjà deux petits sur le tard à la quarantaine et un besoin de changer et d'être...
Et vous faites quoi?
Avec mes vraies valeurs, et du coup je me suis réorientée et je suis passée à autre chose.
Vous faites quoi?
Là je m'oriente sur une carrière de formatrice pour adultes sur l'insertion, axée sur l'insertion.
Ah, d'accord. ça c'est bien. Merci beaucoup en tout cas Sylvie, on est ravis de vous avoir offert ce magnifique séjour. On vous embrasse très fort et merci de votre fidélité à Sud Radio. Et dans un instant, on va revenir effectivement sur les salles de sport qui ont souffert depuis des mois. Puis on va essayer de trouver des solutions avec nos invités. Si vous voulez participer, bien sûr, 0826 300 300, vous êtes un client fidèle et voilà. Ou alors vous êtes une salle de sport et vous voulez apporter ou nourrir le débat, on vous attend, 0826 06 300 300 9h45.